France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Renault, un héritage français. Chapitre 4, la descente aux enfers.
Un auditeur de France Inter, André, a voulu apporter son témoignage et rendre hommage au créateur de l'entreprise, Louis Renault.
Moi, je suis un peu triste parce qu'en 1934, à l'âge de 13 ans, je suis rentré chez Renault comme apprenti taulier. Je voudrais rendre un hommage à Louis Renault, moi. En tant qu'apprenti, j'ai vu cet homme-là s'occuper des apprentis comme on s'en occupe plus maintenant. Il assistait aux travaux, pas journaliers, mais presque, mais surtout, à chaque remise annuelle des prix, il était là. Quand j'ai été reçu ouvrier après mon CAP, j'ai travaillé sous les ordres directs de Louis Renault au moment des salons de l'auto. Eh bien, cet homme-là, avec des complets qui valaient 3 mois de notre salaire, se mettait sous la voiture, travaillait avec nous. Alors, on a reproché à Louis Renault des choses qui ne me regardent pas à la Libération. Mais je ne voudrais pas que le site de Renault soit fermé sans que l'on rende un hommage à, en somme, quelqu'un qui a été à l'origine du développement de l'industrie automobile en France, quand même.
Comme le dit cet ancien employé au moment de la fermeture de Billancourt en mars 1992, on ne pourra pas retirer à Louis Renault son amour immodéré pour l'automobile, pour la modernité, pour la mécanique. Tout le monde s'accordait à le dire, Louis Renault était amoureux de ses usines, il les voulait parfaites, à la pointe, elles étaient l'œuvre de sa vie. Les sauvegarder, c'était préserver ce qui faisait sa raison de vivre, et cet amour déraisonnable a impliqué des compromissions qu'il aurait fallu refuser. C'est sans doute facile à dire aujourd'hui avec la distance, mais oui, la bonne chose à faire pour les usines Renault en 1939 aurait sans doute été de se saborder. Si l'on regarde l'ensemble de sa vie, on peut considérer que l'industriel Louis Renault a eu de la chance. Il a beaucoup reçu dès sa naissance, et grandir dans ce milieu très riche où il était né lui a permis de développer sa vision, même si, bien sûr, cette vision a aussi nécessité une grande inventivité et une bonne dose de ténacité. D'un autre côté, l'homme Louis Renault a aussi eu à affronter, comme tout un chacun, son lot de drames personnels. C'est d'abord la mort qui frappe plusieurs fois juste à côté de lui alors qu'il est encore un jeune garçon. À 9 ans, il perd son frère aîné, Joseph. À 12 ans, c'est sa sœur Berthe qui décède. Elle venait de se marier à un homme qui ne tarde pas à décéder, lui aussi, ce qui constitue un nouveau drame dans la famille. Et puis, 3 ans plus tard, c'est son père qui disparaît, alors que Louis Renault n'a pas dépassé l'âge de l'adolescence. Un peu plus tard encore, ce sera au tour d'un autre de ses frères, associé dans la jeune aventure des automobiles Renault, de mourir d'un accident de voiture au beau milieu d'une course de vitesse. À l'autre extrémité de sa vie, il y a donc cette maladie dont on a déjà parlé. En 1941, après plusieurs années durant lesquelles sa santé se dégrade, Louis Renault se voit diagnostiquer la maladie de Pick, une sorte de démence présénile qui affecte son cerveau, mais pas ses capacités motrices. À 64 ans, Renault alterne les épisodes de dépression et d'excitation mentale sous l'effet de la maladie. On le voit tantôt colérique, tantôt maniaque, tantôt maladroit, tantôt apathique. Un cadre de l'entreprise note: le plus terrible est de songer que cet homme, dont l'activité intellectuelle est considérablement réduite, qui n'obéit plus qu'à des impulsions irraisonnées, continue de diriger cette vaste entreprise. Son biographe Emmanuel Chadot raconte une réunion qui s'est tenue aux usines Renault le 10 avril 1941 avec tous les hauts cadres de l'entreprise ainsi que des membres de l'industrie pétrolière. Il s'agissait d'évoquer le problème des pénuries de carburant. Et devant cet auditoire particulièrement prestigieux, Louis Renault prend la parole et se lance dans un délire verbal qui mélange l'essence, l'alcool, le charbon de bois, les tracteurs de son domaine agricole, le goudron et le lait. Dans la salle, tout le monde se regarde et constate l'état dramatique dans lequel se trouve l'un des plus grands capitaines de l'industrie française. Chacun se rend compte que cet homme qui est censé gouverner des milliers de salariés dans la tempête n'est plus en possession de ses moyens. Mathieu Flonneau, vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste des mobilités et de l'automobilisme. Pour commencer, est-ce que vous avez le sentiment que cette maladie de Louis Renault a beaucoup pesé sur les décisions qu'il a prises durant la Seconde Guerre mondiale ?
Il est indiscutable que cela a joué.
Il est indiscutable que le personnage physiquement, peut-être intellectuellement, ceci mériterait quand même d'autres contrepoints, joue sur, et cela vient d'être dit dans votre texte, les destinées professionnelles de milliers d'employés dont il avait la responsabilité, comme beaucoup d'autres industriels, au moment où se déclenche le second conflit mondial. Et pendant la drôle de guerre, au moment où la campagne de France intervient, il faut le rappeler, Louis Renault n'est pas en France, Louis Renault est aux États-Unis d'Amérique pour essayer de structurer son industrie et continuer à travailler pour la France. Et ce qui ne l'a jamais...
Il est envoyé par le gouvernement français, d'ailleurs, aux États-Unis.
Ce qui ne l'a jamais quitté, c'est cette idée, au départ, de servir la France. Et une autre émission que vous avez menée l'a redit, il survit comme le maréchal Pétain, et en 1940, il apparaît comme l'emblème, eh bien, de ce capitalisme qui demeure et auquel on peut finalement prêter une autre vocation que celle de collaborer avec l'Allemagne, tout comme pour le maréchal Pétain. Donc là, la morale de l'époque doit vraiment, notre morale de l'époque, doit vraiment prendre un pas de côté et regarder les faits comme ils se présentent, c'est-à-dire l'effondrement stupéfiant de la première armée du monde telle qu'elle se présentait à l'époque, les effets de la défaite, et puis les nécessités de la vie quotidienne. Donc chaque mot doit être pesé, je pèse les miens sur la confrontation des différentes thèses autour du personnage de Louis Renault, personnage évidemment controversé, personnage héros en 1918 et déshonneur de la France en 1944 au moment de son incarcération. Voilà, beaucoup de nuances doivent être apportées.
Donc ce que vous dites, Mathieu Flonneau, au fond, c'est que c'était difficile pour Louis Renault de ne pas travailler pour les Allemands. En partie, pour les raisons que vous venez de dire, pour le fait que ça signifiait mettre au chômage tous ses employés, et aussi peut-être parce que il était malade et qu'il avait peut-être moins la possibilité mentale, la force mentale de faire ce qu'il aurait sans doute fallu faire, même si c'était peut-être très difficile, à savoir fermer son usine.
Très difficile de prendre une position sur le sujet. Toujours est-il qu'il a continué à faire travailler sa possession, son usine, ce dont il craignait d'être dépossédé. Là, les archives sont aussi très formelles pour ceux qui les ont étudiées de première main. François Le Hideux, qui va devenir un sous-secrétaire d'État au gouvernement de Vichy, qui est le neveu de Louis Renault. Il y a des tensions au sein de l'entreprise avec l'État français de Vichy. Et Louis Renault a cherché à maintenir sa propriété sur quelque chose qui lui appartenait, avec les difficultés que son âge, qui n'est pas un grand âge, hein, parce qu'il meurt jeune.
Il meurt à 67 ans.
Ouais, bah c'est assez jeune quand même. Et il meurt de mauvais traitements, suite de ses difficultés de santé qui ne sont pas pris en compte lors de son incarcération. Il n'a pas eu de procès. Le débat est véritablement entier quand même autour de ce qu'aurait pu être une instruction complète autour du cas de Louis Renault.
Pour mieux saisir l'attitude des Renault pendant la guerre, il faut nous arrêter sur la trajectoire de la femme de Louis, Christiane. Elle a 23 ans quand elle épouse l'industriel, tandis qu'il est âgé de 41 ans. C'est une parfaite mondaine qui organise des soirées fastueuses et règle la vie sociale d'un couple qui sort beaucoup. Sur des photos, on la voit par exemple sortir de voitures de luxe en tenant en laisse ses trois caniches sous le regard un peu blasé de son chauffeur et de son assistant personnel. Ses inclinations la portent vers les cercles de l'extrême droite et toute une société luxueuse dont une partie va se retrouver à Vichy pendant la guerre. Preuve de cette proximité, elle choisit pour amant, en 1935, l'écrivain Pierre Drieux-La Rochelle, l'auteur du Feu follet, de Gilles ou de Rêveuse bourgeoisie, dont les Allemands feront le directeur de la Nouvelle Revue française durant l'occupation et qui se suicidera après la libération sentant que tout est perdu pour lui. De sa liaison avec Christiane Renault, Drieux-La Rochelle a tiré un livre, Bellucca. Nous avons retrouvé dans la salle des archives une mention de ce roman. C'était au moment de sa réédition en décembre 1991.
Bellucca, c'est un petit récit, ça se passe à Bagdad. C'est une histoire d'amour extrêmement romantique avec la mort, une princesse, etc., qui est jeune et belle. On pense un peu, enfin moi j'ai pensé un peu à Barrès, Jardin sur l'Orient.
Absolument, c'est une référence littéraire directe. Mais il faut dire aussi que ce roman est à certains égards un roman codé. C'est... Il faut le lire d'abord comme une lettre d'amour, puisque Bellucca, c'était le dernier grand amour de Drieux, qui était la femme de Louis Renault. les usines Renault, qui a eu des problèmes.
La Libération.
Enfin, il est mort en 44. Donc, ouais. Mais enfin, bon, qui a eu des problèmes. Mais puisque les usines Renault faisaient
été accusés d'avoir travaillé
pour la Wehrmacht. Mais donc, il faut le lire comme ça. Et alors, c'est très intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent.
Enfin, tout ça, précisons que tout ça est très transposé. Donc,
c'est très transposé puisque c'est dans une autre époque, dans un autre espace, etc. Mais c'est quand même très intéressant pour les gens qui s'intéressent à Drieu, parce que c'est une sorte de grille assez extraordinaire de ce qu'est l'imaginaire amoureux de Drieu. C'est-à-dire que effectivement, il y a cette histoire d'amour entre Hassib, qui est Drieu, et Beloukia, donc, qui est cette femme. Mais en même temps, il y a les rapports très étranges qui sont entretenus entre Hassib et le mari Mansour, donc il serait Louis Renault dans cette optique, etc. Et le fils même de le jeune Hassan, et il y a l'espèce de... C'est-à-dire qu'en fait, il y a presque un côté, le côté sulfureux en moins, théorème avant la lettre. Il est amoureux de toute la famille, d'une certaine manière.
Théorème, en référence à ce film de Pasolini où un jeune homme arrive dans une famille très bourgeoise et séduit toute la famille. Comment vous analysez-vous cette archive, Mathieu Flonneau ?
Pierre Drieu-La Rochelle, je pense qu'il faut le maintenir là où il est, c'est-à-dire c'est une anecdote littéraire très intéressante, c'est un auteur très intéressant, et donc qui a une reconnaissance littéraire. En faire, comme Philippe Soupeau, l'alpha et l'oméga de l'interprétation de Louis Renault, j'en doute.
Non, simplement, ce que ça montre, c'est la porosité entre la famille Renault et les milieux de l'extrême droite et les milieux de la collaboration, puisque Pierre Drieu-La Rochelle est quand même quelqu'un qui s'est distingué dans la collaboration.
Oui, oui, notoirement. Toujours est-il que cette thèse, effectivement, a été pendant longtemps largement défendue, c'est-à-dire une proximité de Louis Renault avec la collaboration et éventuellement l'occupant. Cette thèse, elle a été démentie, notamment par Olivier Dard dans son analyse sur la synarchie, sur les milieux d'extrême droite, sur un complot qui aurait présidé aux destinées de l'État français de Vichy. Je note que Antoine Pro, le grand historien, dans son ouvrage en 2024 sur les Français d'une guerre à l'autre, fait un sort à cette collaboration de conviction qui est très douteuse, qu'il y ait enfin, en revanche, une lecture à charge de Louis Renault vis-à-vis de cela et que cette anecdote y contribue, c'est une certitude aussi.
Autrement dit, Louis Renault, de par sa position sociale, de par le milieu dans lequel il ferait, se retrouve en effet avec des personnes d'extrême droite et qui sont ou qui vont devenir des collaborateurs. Mais ce que vous dites, vous, c'est qu'au fond, ça n'est pas par conviction, mais pour sauver son entreprise et l'œuvre de sa vie, au fond, qu'il va vendre aux Allemands un certain nombre de matériel.
Ce n'est pas ce que je dis moi, c'est ce que disent beaucoup d'historiens. Et il y a là une dimension, encore une fois, qui ne doit pas être intimidée par la morale de l'époque. Fermer une entreprise de 30 000 ouvriers en région parisienne n'était pas chose simple. Peugeot n'a pas fermé, Citroën n'a pas fermé. Rares sont les résistants économiques. Les analyses sur l'épuration ensuite, Berliet a été touché.
Peugeot a quand même demandé aux Anglais de bombarder les usines de Sochaux. Et Michelin, en revanche, s'est sabordé. Donc il était quand même possible de faire autrement et d'avoir d'autres choix.
C'est un débat. Et un débat très important, vous avez raison. Je constate, moi, pour avoir lu autour de ces débats, m'être renseigné et avoir confronté en historien les différentes thèses, c'est que c'est une historiographie sous influence aussi qui s'est rédigée après la Seconde Guerre mondiale et qui a posé des tabous sur la réflexion. Et à certains égards, on peut le comprendre. Néanmoins, ça n'épuise pas et ça ne porte pas l'opprobre sur un homme.
Avant-guerre, la marque Renault était synonyme de voiture luxueuse. Bien sûr, certains modèles comme la Juva 4 étaient davantage accessibles, mais rien qui ne puisse être comparé à la production en grande série de la Ford T, par exemple. Il faut se souvenir aussi qu'avec des marques comme Renault ou Panhard-Levasseur, c'était la France qui était considérée à ce moment-là comme la patrie du luxe automobile, tandis que l'Allemagne produisait des voitures plus accessibles, mais tout cela était sur le point de changer. Au salon de l'auto de Berlin de 1939, Louis Renault fait la découverte d'une petite voiture bizarre sur le stand de Volkswagen. Elle s'appelle la KDF Wagen et on la connaîtra plus tard sous le nom de Coccinelle. Séduit par le petit véhicule, Renault aimerait lancer ses ingénieurs sur la conception d'un modèle de ce genre, mais la guerre l'en empêche. comme on l'a vu, les Allemands vont lui demander de fabriquer des camions, pas des voitures peu chères, pour que les particuliers puissent aller se promener. Et pourtant, sans que l'occupant ne s'en rende compte, une petite équipe de chez Renault va se mettre à travailler clandestinement sur cette voiture populaire. Ce projet, c'est celui de la 4 chevaux, et ce sera le legs plus ou moins involontaire de Louis Renault à la régie nationalisée de l'après-guerre.
Et puis il y a eu la 4 chevaux. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai appris que la 4 chevaux, en fond, c'était un modèle qui avait déjà été conçu en 1942. Mais même en 1940, on en avait parlé. Mais à partir de 1942, le modèle s'était plus ou moins modifié. Il avait eu plusieurs portes, etc., etc. Et en 1946, il avait été présenté au Salon de Paris. Donc en 1947, quand je rentre dans l'usine, c'est l'année où on commence à fabriquer la 4 chevaux. Et pour nous, la 4 chevaux, c'était un souvenir extraordinaire, parce que certains de mes camarades y travaillaient, certains la montraient, cette voiture, en la touchant du doigt et en disant « c'est moi qui ai fait cette aile » ou « c'est moi qui ai fait telle ou telle partie du moteur ». Et la 4 chevaux, ça a été pour nous, sentimentalement, quelque chose d'extrêmement important, et ça a été pour tous les Français, l'accession à la liberté. La 4 chevaux est synonyme de liberté, même si techniquement elle n'était pas tout à fait au point, mais peu importe, elle nous ouvrait de très larges horizons. Et il faut dire que dans l'entreprise, évidemment, on était moins préoccupé de rentabilité que de faire en sorte que l'usine soit un modèle économique et social. Et pendant toute l'époque de Pierre Le Fauché, c'est-à-dire jusqu'en 1955, effectivement, elle fut ce modèle économique et social, qu'elle poursuivit quelques années plus tard d'ailleurs.
Une archive d'un employé de Renault qui date de 1991. Mathieu Flonneau, la 4 chevaux, elle a donc été imaginée clandestinement pendant la guerre.
Oui, c'est un mythe résistancialiste autour de cette voiture.
Ah, c'est un mythe ?
Non, c'est pas un mythe. C'est devenu quelque chose d'emblématique de cette résistance clandestine au sein des usines Renault, qui est réelle, autour de Picard, cet ingénieur, autour de bureaux d'études qui, dans l'ombre et à l'abri des réparations et des fabrications de camions et des réparations de chars chez Renault pour l'occupant, eh bien, développait ici le projet masqué, et on retrouve là le début de la légende Renault du garage, etc.
Durant les heures noires de l'occupation, cette petite voiture allait représenter l'espoir d'un retour rapide à une vie normale pour la petite équipe qui y travaille. Clandestinement, cette auto est testée dans la propriété du grand patron à Erqueville, car on a fini par lui dire la vérité sur ce développement tenu longtemps secret. À lui aussi, la perspective que promet la 4 chevaux redonne de l'espoir. Il est loin d'imaginer que cette voiture sera commercialisée par une entreprise dont sa famille ne sera même plus propriétaire, ni qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour le savoir. En attendant, à Boulogne-Billancourt, les événements tragiques se poursuivent et même s'amplifient. Nous sommes en mars 1942.
Dans la nuit du 3 au 4 mars, en une attaque massive, l'aviation britannique a laissé pleuvoir des centaines de bombes sur l'agglomération parisienne. Le lendemain matin, la banlieue ouvrière offre une vision d'horreur et de désolation. Dès l'aube, les pompiers s'acharnent à retirer des décombres des malheureux ensevelis et respirant encore. Des cadavres affreusement mutilés. Le premier bilan, 24 heures plus tard, s'établissait ainsi. Plus de 500 morts, plus de 1500 blessés graves, des centaines de maisons détruites, des rues entières rasées, des familles décimées. La population ouvrière est aussi bien touchée dans son foyer que dans son gagne-pain.
Ce mois de mars 1942 voit l'aviation anglaise viser les usines Renault de Billancourt. Il s'agit d'empêcher l'entreprise de fournir des camions à l'armée allemande. En même temps que les obus, les avions déversent des tracts. On peut y lire « Renault travaille pour l'Allemagne, Renault est bombardé ». Suite à ce raid, l'île Séguin est en flammes, ainsi que de nombreux immeubles des environs. Le bombardement qui a lieu le soir après la sortie d'usine a causé 423 morts, parmi lesquels 32 employés de chez Renault. Mathieu Flonneau, en 1942, c'est un tournant dans la guerre. Est-ce que c'est aussi un tournant pour les usines Renault, y compris avec ce bombardement anglais ?
Oui, et la suite est aussi un tournant parce que elle corrobore la thèse de la collaboration, pour le coup, puisque Louis Renault va chercher à faire reconstruire très vite son usine. Il va bénéficier pour cela des indemnités d'occupation que les traités d'armistice prévoyaient. Donc il y a là un acharnement de Louis Renault à faire renaître une usine dont une part des productions était indiscutablement destinée à l'effort de guerre nazi.
Est-ce qu'il y a beaucoup de résistants à l'intérieur de l'entreprise Renault, selon vous ?
Bien sûr, c'est un enjeu de résistance interne. C'est un enjeu d'autant plus que les réseaux préexistaient chez Renault, des réseaux puissants liés à la CGT, liés au Parti communiste.
En août 1944, les forces françaises de l'intérieur libèrent l'usine, aidées par des ouvriers eux-mêmes. Parmi eux, Pierre Laurin, 54 ans, chef des services d'entretien, est tué d'une balle alors qu'il est en train de hisser les couleurs de la victoire à la pointe aval de l'île Séguin. Un détachement allemand sur le chemin du départ avait aperçu son geste de loin. Mathieu Flonneau, en quelques mots, comment se passe la libération des usines Renault, ou plutôt la libération de Paris pour les usines Renault ?
Le patron lui-même est incarcéré très vite, avant la libération.
Alors c'est lui qui se rend, parce que d'abord, il est dénoncé. Sud de la France, et puis finalement, c'est lui qui va à la police.
Et il est dénoncé par un courrier d'une personne extérieure à l'entreprise, enfin les archives le rapportent. Oui, il ne réalise pas qu'en se rendant, en se faisant prisonnier, en quelque sorte, il accrédite aussi cette thèse d'une collaboration, aussi de conviction presque. Et il y a tout un phénomène de revanche sociale au sein de Renault, qui avait été très dur pendant les grèves du Front Populaire, qui avait consisté aussi à avoir des polices intérieures pour réprimer les syndicalistes les plus virulents. Donc il y a là Louis Renault qui est pris à son propre piège.
Dans l'une des armoires poussiéreuses de la salle des archives, nous avons retrouvé l'interview d'une journaliste interrogeant, c'était en janvier 1950, un résistant qui avait participé à la libération des usines Renault. En voici un extrait.
Vous pouvez fermer, s'il vous plaît.
Essayez de ne pas faire semblant de lire.
Oui, Monsieur Félix, les souvenirs vous viennent difficilement, ça ne fait rien, vous pouvez lire votre carnet de bord puisque vous l'avez écrit minute par minute.
Oui, ce sera bien plus simple. Alors donc, le dimanche 20 août, à 8h30, arrivé aux usines Renault du détachement FFI chargé de sa surveillance. Quatre hommes sont placés à la porte principale de la place nationale, les autres portes étant tenues fermées, avec la mission formelle de ne laisser pénétrer dans l'usine... Avec la mission formelle de ne laisser pénétrer dans l'usine que les personnes assurant les services utiles à la collectivité ouvrière.
Bon, écoutez, ça ne fait rien si c'est décousu, on va raconter des anecdotes, même si vous ne vous souvenez pas des dates. Monsieur Félix, pendant tout ce temps-là, votre femme, que faisait-elle ?
Obligatoirement, elle restait à la maison avec mon fils.
Est-ce qu'elle savait où vous étiez ?
Elle l'a su le 18 août au matin, quand je lui ai demandé une gamelle pleine d'haricots, et lui disant que je ne savais pas quand je rentrerais. Et c'est à ce moment-là seulement qu'elle a appris que j'appartenais à la résistance depuis le mois de septembre 1942.
Alors cette archive, Mathieu Flonneau, elle est un peu étonnante quand on l'écoute dans son entier, parce qu'on a l'impression que la personne qui témoigne, Félix, qui a d'ailleurs dû écrire sur un papier l'ensemble des événements qu'il doit raconter, au fond a un petit peu travaillé son discours, comme si il y avait eu une espèce de reconstruction de ce qui s'était passé au moment de la libération de ces usines-là. Est-ce que c'est pour vous simplement un hasard de cette archive-là? là, ou est-ce qu'il y a eu en effet une histoire qui a été un petit peu refabriquée?
Le champ de bataille idéologique qui a suivi la libération, qui porte sur toute la société française, qui a connu une phase d'épuration, c'est cette période à laquelle les Français ne s'aimaient pas, faut-il le rappeler. C'est la période à laquelle au mythe pétainiste succède le mythe gaulliste, au mythe collaborationniste succède le mythe résistentialiste, et voilà, je fais des gestes de balance, parce que évidemment, la période est troublée, la période est aussi marquée par des grands totems. Le grand totem, c'est l'idée et des nécessités, la nécessité de reconstruire la France, et de reconstruire la France avec des usines qui peuvent le faire, et les usines Renault, au même titre que d'autres, sont parmi celles-ci. Et donc il y a un côté victime, mais avec des guillemets, victime expiatoire du père de cette entreprise qu'est Louis Renault. Chaque mot doit être pesé, parce que, évidemment, la régie Renault, ensuite, va devenir un bastion ouvrier qu'elle était déjà avant, mais là désormais délivrée de la figure du patron. Et c'était dit aussi à un autre moment, la figure même du patron Louis Renault va disparaître des murs de Boulogne-Billancourt. Et c'est là toute la difficulté d'existence de cette société Renault, qui a connu des vicissitudes par la suite, comme vous le savez. Et le portrait, par exemple, de Carlos Ghosn pour une période plus récente a aussi été enlevé des murs.
Je reviens, Mathieu Flonneau, une seconde à la question de la mort de Louis Renault. Donc il y a cette thèse défendue ensuite par sa veuve Christiane, qu'il aurait été battu dans la prison par des FFI, et en tout cas maltraité, et que c'est cela qui aurait entraîné la mort de son mari.
On ne saura pas véritablement la vérité. Moi, je me contente de relever comme historien d'une autre génération aussi qu'un tabou très clair, et je le dis aussi en tant que membre de Renault Histoire, un tabou très clair a entouré ces dernières années, ces derniers mois, pardon, de vie de Louis Renault. Et ce n'est pas réhabiliter Louis Renault ou la collaboration que de dire qu'il y a évidemment une zone trouble et que c'est une instrumentalisation parfois de ces derniers mois de vie qui est présent. Une BD récente...
Ce qui permet de justifier au fond plus facilement la nationalisation, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, mais vous savez que ça a des conséquences considérables, puisque la famille au début des années 2010 avait voulu les descendants, avait désiré revoir, et ça aurait eu des conséquences financières considérables, revoir les conditions de ce qui est assimilable à une expropriation.
Alors, ils ont été expropriés de tout ce qui faisait Renault en France,
privés, oui.
Mais pas d'abord des biens privés qu'ils avaient en France, et aussi pas de certaines entreprises qui n'étaient pas en France et qu'ils ont pu conserver, qui dépendaient de Renault.
Mais l'idée aussi défendue par ces héritiers, et on peut le comprendre, c'est qu'il y a une forme d'infamie qui est associée aux dernières années de Louis Renault, qui mérite d'être revisitée à l'aune de toute une existence, à l'aune de la croix de guerre qu'il obtient après la Première Guerre mondiale. Oui, il y a des éléments qui méritent d'être mis en balance.
Les premiers jours du ministère Schumann, agréé par l'Assemblée, n'ont pas vu décroître l'agitation suscitée la semaine précédente. Aux usines Renault, les grévistes continuaient sans incident à occuper les ateliers. Occupation coupée seulement chaque jour par des meetings et des discours destinés à renforcer leur résolution. Cependant, si les usines Renault opposaient à la reprise du travail une défense sans fissure, des failles se manifestaient parmi les autres groupes.
Avant-guerre déjà, les usines Renault étaient un lieu où s'expérimentaient des revendications sociales. Avec la nationalisation, le rôle de laboratoire social de Boulogne-Billancourt va s'en trouver exacerbé. Et c'est ce que nous allons vous raconter dans le prochain épisode. Salle des archives, l'héritage Louis Renault, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner, prise de son Ludovic Auger, mixage Éric Boisset, documentation INA, Delphine André.